Durant les commémorations des 80 ans de la Libération, une exposition a eu lieu à Douai avec une vingtaine de mannequins en armes et en uniformes anglais, américains, allemands, résistants, du matériel, des postes radio, des brancards, postes de secours et toutes sortes d'objets du quotidien de la Seconde Guerre mondiale. Cette impressionnante collection appartient à Philippe Drancourt, un Valenciennois, collectionneur d'objets de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
Je suis passionné d'histoire et surtout d'histoire militaire et sur la région aussi. Et depuis 40 ans, je collectionne les uniformes et les objets des deux périodes, des deux dernières guerres, quoi.
Et donc, depuis 40 ans, vous dites, donc vous avez commencé jeune, c'est ça ?
J'ai commencé, j'avais 12 ans, hein, ça fait même plus de 40 ans. Et voilà, j'ai eu la chance, j'ai eu une épouse qui m'a permis de continuer aussi. Et surtout, j'ai eu la place. Donc, pour moi, cette collection, tout ça, c'est ce que je veux, c'est la partager. Donc, en réalité, faire des expositions, ça me plaît énormément. Et je fais plusieurs expositions par an.
Et d'où ça vient, cette passion à 12 ans ?
Cette passion à 12 ans, des camarades, on a trouvé des vieux casques, des vieux masques à gaz, on a commencé à jouer avec, et puis on a regardé, et puis on s'est dit, tiens, on en garde un, on en garde deux, et puis voilà, c'est parti comme ça, la collection elle a démarré comme ça, avec quelques objets au début, et puis une passion entre camarades.
Et donc c'est concentré sur la Première et Seconde Guerre mondiale, c'est ça la collection ?
Ouais, Première et Seconde Guerre mondiale, ouais. J'ai à peu près 150 mannequins maintenant, hein. Et j'ai réalisé déjà beaucoup d'expositions, hein. J'ai même été dans le département de l'Aisne. Et puis moi, ouais, j'étais quand même longtemps militaire, j'ai fait presque 30 ans d'armée, et donc avec l'armée aussi j'ai pu réaliser j'ai été faire des expos au profit des blessés de l'armée de terre, enfin des choses comme ça, quoi. J'étais dans les écoles aussi, exposé, enfin partagé avec des objets directement en face des élèves, ça parle beaucoup, et donc fort sollicité, et ça reste un plaisir.
Et aujourd'hui, donc, ouais, cette exposition, vous avez parlé des mannequins. Il y a eu un choix à faire de ce que vous proposez, justement, aujourd'hui, dans cette exposition.
Ouais, mon choix s'est orienté. Bah, là, on commémore le 80e anniversaire de la victoire et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fin de compte, j'ai accentué surtout sur la période de résistance. Hein, donc, on peut découvrir la résistance au début de l'exposition. Après, bien sûr, une partie sur l'occupant allemand. Et puis après, on a mis à l'honneur les troupes américaines et les troupes britanniques qui ont participé à la libération. Mais la guerre, elle ne s'est pas arrêtée en mai, elle s'est arrêtée en décembre 1945. Hein. Et donc, on peut aussi voir sur l'exposition un mannequin japonais et un mannequin russe. Hein. Voilà.
Et donc, où vous avez pu trouver tous ces uniformes ? C'est échiné, c'est beaucoup de recherche ?
Ouais, c'est beaucoup de recherche, de temps. Bon, après, c'est comme toutes les passions. Hein. Je pense que quand on fait de la moto, on a un réseau. Dans ça, c'est pareil. Et puis, les choses, elles arrivent. Bon, moi, 40 ans de collection, donc j'ai commencé à une période où on trouve encore beaucoup de choses. Et puis, bon, maintenant, je suis connu. Donc, j'ai toujours des dons, des choses comme ça. Je cherche, je vais sur les brocantes. Chaque semaine, en général, je trouve quelque chose. Et voilà, après, c'est la place qui manque, mais bon, on y arrive. Le but, c'est de faire partager par des expositions. Voilà.
Vous avez un entrepôt pour stocker tout,
c'est ça ? Une grange. Je suis arrivé sous le toit. Tout est d'origine. Donc, là, pour la Seconde Guerre mondiale, il y a encore des témoins de cette période-là. Hein. Ils sont de plus en plus âgés, mais il y en a encore. Par contre, pour la Première Guerre mondiale, il n'y a plus de survivants. Donc, les objets de la Première Guerre mondiale, je dis toujours que c'est les derniers témoins, quoi.
Et il y a même des armes, hein, on voit des objets, ouais. Il y a pas mal de choses en fait, différentes.
Bon, en fin de compte, ouais, j'aime bien, surtout, bien sûr, il y a des armes, des mannequins, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le petit équipement, le petit matériel, les objets de la vie quotidienne du soldat. Je trouve que ça parle beaucoup. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est les objets qui ont été réutilisés après la guerre. Par exemple, là, il y a une caisse à munitions américaine, et les gens récupéraient ce modèle de caisse, et avec, on faisait un ramasse-poussière. Donc, on trouvait une deuxième vie pour l'objet militaire.
Oui, là-bas, c'est une bouloire, je vois, qui a été faite aussi.
À partir d'un obus, une bouillotte faite à partir d'un obus. Et puis là, des chaussures à semelles de bois, une jupe confectionnée avec une bande de mitrailleuse américaine. Voilà, il y a plein d'objets assez intéressants.
Oui, j'ai même vu une conserve de lait. Il y a des choses assez atypiques, hein, qu'on retrouve plus du tout en fait dans ces formats-là aujourd'hui.
Ouais, conserve de lait. Donc ça, c'est des conserves amenées par l'armée américaine, comme la bouteille de Coca-Cola qui se trouve dans le plateau, bouteille d'époque, que les Américains ont amenée ici en Europe.
Et pour stocker tout ça, j'imagine qu'il faut faire attention, que ça se dégrade pas aussi dans le temps.
Alors, ouais, c'est du temps. Personnellement, mon épouse, elle fait pas les poussières, hein, donc elle me dit tu gères toi-même. Et donc, bah, j'y passe du temps dans la pièce et à la maison, en plus, tout est exposé. Donc, quand je prends pour une expo, après, il faut que je remette tout en place. Hein.
Et on voit des maquettes aussi, un char, ouais. Les différentes voitures. C'est vous qui les avez faites, les maquettes ?
Non, alors, pas du tout. C'est un ami plus âgé que moi, un ancien combattant qui, par passion, a réalisé à peu près 300 maquettes de tous les véhicules militaires, de tous les belligérants de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et tout a été réalisé avec des matériaux de récupération, et essentiellement du bois. Les roues, par exemple, c'est des anneaux de barre à rideau, et tout fait main. Tout fait main. Et donc ce monsieur maintenant a quitté la région et il m'a fait don de sa collection de véhicules militaires.
Et donc oui, vous avez maintenant acquis une expérience, une connaissance aussi de savoir l'objet, à quelle époque il appartenait, des choses comme ça. Et même avec Internet aujourd'hui, on peut retrouver vraiment, retracer d'où ça vient.
Ah, tout à fait, ouais, tout à fait. Là, j'ai pas encore eu le temps, mais là, par exemple, j'ai un sac marin britannique. On voit le nom et il y a le nom et le matricule du soldat. On pourrait très bien retrouver la personne. Après, bon, c'est une question de temps, des fois, pour les recherches, mais ouais, c'est certain, c'est certain.
Et donc, vous faites beaucoup d'expositions, comme là, aujourd'hui à Douai ?
Bah, actuellement, j'en fais une autre sur Saint-Solve, à côté de Valenciennes. Et voilà, aujourd'hui, j'ai eu un contact pour Lille, pour le 85e anniversaire des combats de Lille en 1940. Et bon, je dis toujours que je vais ralentir, mais en fin de compte, c'est la passion, je veux dire.
Oui, c'est ça. Ouais.
Le plaisir, ça reste de faire partager, quoi. Parce que bon, c'est bien d'avoir une collection chez soi et tout, mais bon, s'il n'y a personne qui la voit... Enfin, moi, c'est mon principe, donc... Après, quand je déplace, bon, j'abîme un petit peu, tout ça, c'est... parce que c'est des choses, elles sont vieillissantes. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait, en réalité, ce que je veux, c'est faire partager.
Et sensibiliser peut-être les plus jeunes aussi, pas forcément les plus anciens, mais qu'il y ait des plus jeunes qui s'intéressent à l'histoire, à ce qui s'est passé aussi durant les deux guerres mondiales.
Ouais, bah, en général, les scolaires, à chaque fois qu'ils viennent visiter, ils accrochent. Et puis le fait de présenter du matériel, des objets et tout, et si on commente en plus, ben, ça les intéresse. Ça les intéresse. Et il y en a pas mal qui connaissent quand même.
Vous avez peut-être un site internet ou autre où on peut avoir des infos sur ce que vous faites ?
Bon, en fin de compte, après, ce que j'ai fait, avec des amis, on a créé une association, la sauvegarde d'un fort, un fort de la ligne Maginot, à Sebourg, à côté de Valenciennes. Et donc, on restaure le fort du Talandier. C'est une association qui est toute neuve et on a du succès. C'est un gros fort. Hein. Donc là, il y a un site, hein, c'est Fort du Talandier. Hein. Et nous, je suis le président. Je suis le président. C'est un fort avec un sous-sol, avec les chambrées, toutes les pièces. Donc, c'est à voir.
Et vous faites quelquefois des reconstitutions ?
Donc là, sur le site du fort, il y aura des reconstitutions. Hein. Moi, personnellement, j'en fais pas, mais moi, je présente du matériel. Après, je me limite aussi. J'aime bien faire des scénettes, mais après, des groupes de reconstitution, je fais pas ça.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de prêter du matériel, louer pour des films ou des séries, des choses comme ça ?
Non, en fin de compte, j'ai prêté du matériel pour des mini-tournages. Dernièrement, il y a l'université de Valenciennes, les étudiants en troisième année, je crois, d'audiovisuel, ils ont fait un court-métrage, j'ai prêté du matériel. C'est pas du matériel qu'on peut mettre, parce que bah, là, tout est authentique, et donc c'est trop fragile, quoi. Mais on pourrait pas mettre les tenues, quoi.
Durant cette exposition 44-45 pour les 80 ans de la Libération, rencontre aussi avec Frédéric Chéreau, le maire de Douai, afin d'évoquer les dommages subis par la ville durant les deux guerres et l'importance du devoir de mémoire.
Nous souhaitions, avec mes collègues élus, marquer vraiment le coup, parce que c'est un anniversaire important, 80 ans. Et puis, nous avons été contactés pratiquement il y a un an par le comité d'entente des associations patriotiques qui nous a dit qu'ils avaient la même envie. Nous sommes partis en commun sur cette envie commune d'organiser une commémoration importante, une exposition à l'intérieur, une exposition à l'extérieur. Et ça nous paraissait important dans une ville qui a peut-être plus que d'autres été touchée par les guerres, qui a été occupée deux fois, qui a connu deux fois quatre ans d'occupation, qui a été détruite à la fin de chaque guerre, à chaque fois, de rappeler que finalement cette mémoire, qui peut-être peut paraître très ancienne pour les jeunes, elle n'est pas si ancienne que ça, elle a marqué notre ville, elle a marqué les mémoires des anciens. Et c'est important de continuer à le raconter, à se rappeler ce qui s'est passé pour ne pas le revivre.
Et là, c'est le fait de voir directement des uniformes et des objets, d'essayer de se replonger dans cette époque-là, c'est l'idée pour les Douaisiens.
Je pense, voilà, bah, ceux qui l'ont vécu mais qui deviennent rares, hein, ça va leur rappeler des souvenirs, mais pour les plus jeunes, ça donne de la chair à ce qui parfois est peut-être un peu théorique, ou c'est des pages dans un livre d'histoire. Là, on voit les objets, on voit les costumes, on voit les armes, demain on verra les voitures également, et ça permet de se replonger un peu dans le contexte, de comprendre à quoi ça pouvait ressembler.
Et pour les plus jeunes, hein, vous en avez parlé, de pouvoir voir ces expositions, mais aussi de s'intéresser à cette histoire et à cette idée, de s'intéresser à cette époque de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Alors, l'attaquer sous l'angle des costumes, des insignes et des armes, bon, ça peut être un angle d'intérêt, mais en fait, ce qui est important derrière, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a laissé se développer dans les années 30, qui à un moment donné a abouti à cette guerre terrifiante ? Et qu'est-ce que ça peut nous donner comme leçon sur le présent ?
Oui, vous avez parlé un peu tout à l'heure du rôle du discours, hein, c'est ça, c'est toujours être vigilant aujourd'hui avec le contexte mondial qui n'est pas toujours évident, c'est ça, c'est toujours se rappeler ce qui s'est passé.
Les idées de haine, les idées de refus de la démocratie, les idées de discrimination, de domination restent présentes, et il y a encore évidemment aujourd'hui des gens qui sont prêts à proposer des solutions simplistes, des solutions violentes, en racontant que ça pourrait résoudre simplement les problèmes que nous rencontrons. Mais non, ces solutions-là, on les connaît. Ces solutions-là, nos ancêtres les ont vécues, nos anciens les ont vécues dans les années 30 et dans les années 40. Et on sait très bien à quoi elles mènent. Voilà, c'est pas la peine de réessayer. Racontons ce qui s'est passé pour ne pas le recommencer.
Et directement en lien aussi, finalement, c'est la journée de l'Europe. Hein. Vous avez dit que c'est important aussi qu'il y ait cette journée de l'Europe qui est proche aussi du 8 mai.
Exactement. Et n'oublions pas d'où elle est venue, l'Europe. Elle est venue de ce plus jamais ça après la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, l'Europe aujourd'hui, on peut la critiquer, mais mon Dieu, comme nous critiquons nos gouvernements, comme nous critiquons le fonctionnement du Parlement français, l'Europe, ça marche pas toujours bien. L'Europe, ça tiraille, parfois ça frotte, parfois c'est trop lent, parfois elle prend des décisions qu'on a du mal à comprendre. Mais n'oublions pas quand même que ça fait 80 ans qu'il n'y a plus de guerre en Europe, que jamais les jeunes de ce continent ne se sont sentis si proches les uns des autres. Aujourd'hui, les jeunes français, les jeunes allemands regardent les mêmes séries, ont les mêmes idoles, écoutent la même musique. Et tout ça, c'est le fruit de cette construction européenne patiente. Une guerre aujourd'hui entre la France et l'Allemagne paraît totalement inconcevable. Et ça, c'est déjà une victoire. C'est une victoire précieuse et une victoire à entretenir.
Et Douai est couplé avec une ville allemande, hein, d'ailleurs, vous avez dit.
Oui, jumelé avec Recklinghausen. Et les Allemands de Recklinghausen seront avec nous ce samedi et ce dimanche, le 10 et le 11, volontairement, juste après le 8 mai, pour renouveler le serment de jumelage signé en 1965, à l'époque par Charles Fenin pour Douai.
C'était un retour sur une exposition à Douai pour les 80 ans de la Libération qui s'est déroulée du 8 au 11 mai 2025. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site douai.fr. Un reportage réalisé par Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 en modulation de fréquence.
Camion de pompiers, c'est ce qu'il me faudrait quand je me rase en aveugle, que je hurle, que je beugle.
Énième coupure, énième blessure, sa perle rouge dans la mousse blanche, je m'essuie d'un revers le manche.
Les mauvais matins, les petits matins, les matins miniatures.
Je descends 4 à 4, 50 marches à la con, et me voilà dehors dans mes pompes à ressort, où le joli boudron. Mauvais matin, petit matin, je ne crois plus en rien, j'observe mes congénères. Rien ne va et tout va de travers. C'est fou ce que tout ça génère. C'est fou ce que tout ça génère. mauvais matin, petit matin, je reprends le même train-train. Ah tiens. Mes journées se déroulent en scénario maboule, style Lelouch. J'attends que le soleil se couche en passant mes soirées chez une fille tordue.
Les mauvais matins, les petits matins, les matins miniatures. Camion de pompier, c'est ce qu'il me faudrait quand je me rase en aveugle, que je hurle, que je bug.
Aïe aïe aïe, de retour au bercail, je relève le courrier dans la loge du concierge. Il me raconte sa vie, toujours le même récit. Sa grognasse est partie, le voilà tout anéanti. Finalement nos vies se ressemblent. Moi je repense à celle qui partageait naguère mes rêves de vieux d'équelle.
Camion de pompier, c'est ce qu'il faudrait quand je me rase en aveugle, que je hurle, que je beugle.
Je remonte une à une, 50 marches à la con. Je m'écroule dans le divan devant la télévision. C'est déjà la pleine lune. J'ai une faim de loup. Il y a sur la une ou la deux, je sais plus, un documentaire sur le surpoids. Le surpoids chez l'enfant.
Camion de pompier, c'est ce qu'il faudrait quand je me rase en aveugle, que je hurle, que je beugle.
Extinction des feux, dans le lit je rêvasse d'une fin magnifique, petite mort mécanique. Mais arrivé là-haut, je veux le face-à-face. Le face-à-face avec la robe qui s'envole et les cheveux de feu de Marilyn Monroe. Camion de pompier, c'est ce qu'il me faudrait.
Camion de pompier, c'est ce qu'il me faudrait quand je me rase en aveugle, que je hurle, que je beugle.
Thank you. au 9 juin prochain, c'est le retour du festival de rue Sous les pavés l'art dans l'Audomarois. Cet événement se conclut par 3 jours de fête au cœur de la ville de Saint-Omer. Un festival créé par l'association Le Saut du Tremplin, dont nous parle sa directrice artistique, Elisabeth Pett.
Donc Le Saut du Tremplin est né en 2011, donc 14 ans cette année, 15 l'année prochaine. Et donc, il a été fondé par mes soins, puisque j'ai découvert le clown par hasard, j'ai une révélation, et je me suis dit, c'est du clown que je veux vivre, que je souhaite vivre, et surtout le faire partager au plus grand nombre. Donc j'ai créé Le Saut du Tremplin à Saint-Omer, et depuis, j'en suis très satisfaite et les gens qui le connaissent également.
Et ensuite, le festival donc décalé et azimuté, ça s'appelle, on le prénomme comme ça, Sous les pavés l'art, vous l'avez créé il y a quasiment 10 ans, l'année prochaine ce sera un bel anniversaire, et il est de retour donc surtout du 7 au 9 juin, mais il commence le 1er juin prochain. Donc avant de parler de ce qui va se passer à Saint-Omer même, qu'est-ce que vous faites du 1er au 7 juin ?
Du 1er au 7 juin, on se balade. On se balade dans les pays de Saint-Omer, communauté de communes du pays de Saint-Omer, mais également dans la CCPL, communauté de communes du pays de Limbre. Et donc là, on va à la rencontre de plein de publics différents. On peut aller auprès de personnes en situation de handicap à la PU Les Papillons Blancs. On peut aller en détention aussi au centre pénitentiaire de Longnes. Où va-t-on également à Clermarais, Zouafque, Limbre ou Virquin, et également voir les scolaires de Limbre.
Et alors pourquoi on le surnomme comme ça, Festival décalé et azimuté ?
Alors tout ça, c'est en lien avec le clown qui est complètement décalé et complètement azimuté. Donc c'est un moment aussi qui se veut hors du temps, hors de nos soucis, où on rit beaucoup, avec toujours cette touche de décalage, regarder le monde tel qu'il est, mais avec un regard malicieux, un regard qui prend un peu de hauteur aussi, pour nous permettre de respirer un peu.
Et le plus gros de l'événement, c'est donc du 7 au 9 juin, pendant 3 jours. Donc là, ce sont, on le rappelle, uniquement des spectacles d'art de rue. Tout va se passer dans Saint-Omer même, à peu près où, de où à où dans Saint-Omer ?
Alors de où à où, ça va du parking de la cathédrale, qui sera le village du festival, Office de tourisme, notre partenaire, fidèle partenaire depuis le début du festival, Mode Castral, et également du côté de la place Perpignan.
On va donc annoncer le beau programme. Comme chaque année, vous y prenez bien en avance pour réaliser cette programmation. D'ailleurs, comment vous faites ? Vous les rencontrez où, les compagnies, par exemple ? Comment vous avez vos coups de cœur dans la préparation déjà de l'événement ?
Alors déjà, il faut savoir qu'effectivement, depuis 9 ans, on en connaît des compagnies. Alors, il y en a beaucoup qui sont des compagnies amies. Nous aussi, on est fidèles au travail des artistes que l'on accompagne, que l'on suit. Et donc, il y a certaines compagnies qu'on a déjà accueillies, il y en a d'autres que l'on découvre. Alors généralement, ce sont sur les festivals internationaux de Chalon ou alors d'Aurillac l'été, où on se rend faire notre marché. Le mot n'est pas très joli, mais en tout cas, oui, c'est là où on va à la rencontre des nouvelles créations qui peuvent venir fouler nos pavés. Maintenant, une programmation, ça se construit effectivement bien en amont, à peu près un an et demi avant l'édition, où on commence à sélectionner quels spectacles pourraient être présents, aussi en fonction des disponibilités des artistes. Hein. Moi, j'ai connu des compagnies où il fallait... j'ai dû les réserver 4 ans avant pour qu'ils puissent être chez nous, parce que très demandés, parce que ils jouent à l'international, et donc ils ont un planning de tournée très très important.
Et donc cette année, il y a un message derrière tout ça, j'ai l'impression qu'il s'est construit au fur et à mesure que la programmation a été faite, et finalement, pas mal des compagnies ont un peu les mêmes valeurs.
C'est ça. Alors, il y a des messages qui sont véhiculés au travers des spectacles qui ont été sélectionnés. Et c'est la non-discrimination, l'inclusion, l'égalité des genres, la place de la femme et aussi celle de l'homme.
On va parler donc de certains de vos coups de cœur, parce qu'au total, il y a combien de représentations sur tout le week-end ?
Sur tout le week-end, on en a 24. 4 de ouais. mémoire.
Donc on n'aura pas le temps de parler de tout, mais en tout cas on va parler de plusieurs de vos coups de cœur. C'est quoi le spectacle Le PD ?
Ah, Le PD, c'est un coup de cœur. C'est un spectacle qu'on a découvert l'année dernière à Aurillac, de la compagnie collective Janine Machine. Et donc c'est une déambulation de 2h30 qui retrace toute la lutte pour les droits de la communauté homosexuelle qui a démarré notamment à San Francisco et puis elle arrive en Europe. Donc lors de la déambulation, on se déplace dans le temps. Donc quels ont été les droits acquis, quels ont été les freins, les difficultés, les grands moments. Je pense par exemple à la place de la Concorde ou sur l'obélisque avait été placé un préservatif. Donc c'est ces choses-là qu'on vient aborder et le public est emmené comme s'il était en manifestation pour lutter pour les droits homosexuels. Donc c'est un spectacle à ne pas louper. Alors, comme c'est une déambulation au niveau des jauges publiques, on ne peut pas se permettre d'être à 1500, 2000. C'est pour ça qu'il joue deux fois. Et donc, j'attends à ce que le public se répartisse de façon assez naturelle sur ces deux représentations pour garantir la qualité du spectacle aussi.
Et puis, comme une bonne partie des spectacles, c'est quand même assez participatif.
Toujours, et en l'occurrence, on a deux spectacles qui sont participatifs avec des préparations en amont. Donc, on a le spectacle Elixir, où on a fait un appel à participation pour des personnes qui aimaient chanter et savaient chanter. Donc là, ce sera une pagaille vocale all'italiana. Et donc, spectacle participatif. Et on a également les Dégainés. Alors, c'est en partenariat du Centre social et culturel de Saint-Omer, où là encore, on a 26 personnes qui vont en amont, lors d'ateliers, se préparer à la participation à ce spectacle. Mais en règle générale, et ça c'est valable pour tous les spectacles, le clown casse le quatrième mur du théâtre et en relation directe avec le public et vient souvent le faire participer lors des représentations.
Mais par exemple, au Karaoke Queen, on va chanter aussi ?
Ah là, on va chanter. Hein. On va chanter pendant 2 heures avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, le couvent de Lille, qui sera présent pour d'abord célébrer la messe, puis nous entraîner à chanter tous ensemble pendant le temps du repas et en attendant Steve, un chanteur déjanté qui se croira être à Los Angeles, sauf que il a loupé son coup, il a atterri à Saint-Omer.
La même chose, mais l'ambiance est la même. On s'amuse très bien.
C'est tout à fait ça.
Donc ce sera le 8 juin soir, par exemple. Et pour terminer, on peut parler aussi de ce qui va se passer le lundi 9 juin. Ce sera férié, d'ailleurs, avec le baptême républicain. Je crois que monsieur le maire de Saint-Omer, François de Coster, va y participer.
Eh bien, tout à fait, puisque lors de ce festival, nous allons créer une mascotte qui sera la Queen des pavés. Et donc, nous allons faire appel au public qui pourra participer à la construction de cette Queen qui sera présente notamment lors du cortège nautique de Saint-Omer le 27 juillet. Et pour l'occasion, donc, nous allons baptiser cette Queen. Il y aura un baptême républicain orchestré par monsieur de Coster. Entre autres, on ne va pas le laisser tout seul, avec lui.
On précise, pour ceux qui ne connaissent pas le cortège nautique, ce sont de nombreux
chars
qui défilent
sur les canaux, le Haut-Pont, donc un quartier de Saint-Omer, avec des chars constitués de fleurs en papier crépon. Alors il faut des heures et des heures et des milliers de fleurs pour constituer un char. C'est un très bel événement de notre belle ville.
Donc, il y aura la Queen du festival sous les pavélars également lors de cet événement. Donc, on le précise, tous ces spectacles, est-ce qu'il faut réserver au préalable ? Non, c'est vraiment...
Non, il ne faut pas réserver. Les jauges ne sont pas limitées, mais elles se limitent naturellement quand on a trop de public et qu'un spectacle est plus intimiste. Donc, effectivement, il vaut mieux s'éloigner un petit peu, aller boire un verre à la buvette ou manger sur le village du festival, par exemple, pour ne pas empêcher, j'ai envie de dire, la représentation en cours et garantir sa qualité. Mais en règle générale, on a 2 à 3 spectacles en parallèle. On pourra trouver un endroit où se poser et apprécier les spectacles.
c'est gratuit, ces événements, mais évidemment, c'est le principe, c'est la tradition dans le monde de l'art de rue. Vous passez avec un chapeau à la fin des spectacles. Et pourquoi c'est important de contribuer à tout ça? Parce qu'on le rappelle, vous êtes une association.
Tout à fait. Alors, pour financer le festival, on a des subventions publiques. On a également un grand nombre de partenaires privés. Et puis, on a également la buvette, je viens d'en parler, mais aussi les chapeaux. Donc, la gratuité, il faut bien comprendre qu'elle a un coût. L'exigence de la programmation, on en a parlé, elle a un coût. Et donc, les chapeaux font partie intégrante du budget du festival. On compte vraiment sur eux, hein. Et puis, c'est aussi pour rappeler au public qu'effectivement, ils viennent d'assister à un spectacle de qualité. Ceux qui ont les moyens peuvent participer au chapeau. Ceux qui ne l'ont pas, eh bien, n'y participent pas, mais ils auront quand même assisté au spectacle. C'est aussi pour rappeler que, ben, effectivement, cette gratuité a un prix.
Et puis, vous avez aussi un compte sur Hello Asso, on peut vous retrouver là-dessus pour participer à ces différents spectacles financièrement. Et on peut devenir bénévole, vous en avez toujours besoin. On fait quoi quand on est bénévole chez vous?
Donc, eh ben, on peut proposer beaucoup d'activités en tant que bénévole. On peut travailler à la buvette, on peut distribuer des flyers, installer des gradins, aider à la régie technique. Donc, tout ça, c'est en fonction de ses compétences, de ses goûts, de ses envies du moment. C'est pareil pour la durée. C'est-à-dire que je peux donner 2 heures, je peux donner une journée ou 3 jours. Donc, ça aussi, c'est libre à chacun lors de l'inscription. Et puis, on fait la fête aussi. Mmh. On fait la fête, ça c'est très important, c'est très convivial, hein. On y tient, on met un point d'honneur à ce que les bénévoles soient vraiment bien accueillis, et puis on découvre aussi et surtout les coulisses de l'organisation d'un tel événement.
Et vous en saurez plus sur la programmation de cet événement qui a lieu du 1er au 9 juin à Saint-Omer sur le site souslespavelards.fr. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ah, moi, quand je me dis que je suis large pour faire une demande de bourse ou de logement étudiant. Moi, quand je réalise que je n'ai plus que quelques jours pour faire mon DSE. Vite! Je me rends sur messervices.gouv.fr avant le 31 mai.
Et pour savoir si tu es éligible à une bourse ou un logement étudiant et comment remplir ton dossier, il suffit de te rendre sur le site jedemandemabourse.lescrousse.fr. jedemandemabourse.lescrousse.fr.
We'll be right back. Hier, j'ai parlé avec une sorcière. On a discuté football et poésie hier. Tire ou tigre et les dents cassées, genre chat de gouttière. Depuis, je me promène sur les toits, je crie, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas. Même mes amis me crient, ta gueule le chat, ta gueule le chat, ta gueule le chat. Avec ses petits airs d'arbre en fleurs, j'ai eu envie de lui grimper dans les bras, voilà.
Tournage du Arambert Creative Mine sur le site minier de Wallers-Arambert, l'association lilloise Rencontre Audiovisuelle initie et fait pratiquer le 7e art au plus large public lors du Village des Enfants au Festival International du Court-Métrage ou lors du Mapping Vidéo Festival. Les habitants peuvent découvrir les métiers du cinéma et les coulisses de la fabrication d'un film d'animation. En visio, Carmen Boré, chargée de la communication ou rencontre audiovisuelle.
Alors l'objectif du Village des Enfants et de ses ateliers, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les habitants du territoire et surtout le jeune public, hein, c'est vraiment notre événement vitrine de nos actions jeune public, de les sensibiliser aux images et sur comment on fabrique des images. Donc on va leur proposer différents types d'ateliers pour explorer différentes techniques de réalisation et d'animation. Donc, il peut y avoir du dessin animé, du papier découpé, du tournage effets spéciaux sur fond vert, toutes sortes de choses pour voilà, comprendre comment les films qu'on voit, comment ils sont fabriqués, et puis peut-être donner envie de continuer de réaliser des petites animations à la maison ensuite. En fait, avec très peu de moyens, on peut nous-mêmes animer des petites séquences. Par exemple, on a déjà fait des ateliers de stop motion avec son doudou, qui plaisent beaucoup aux petits et aux parents aussi, parce que ça permet en plus de créer des moments de partage en famille.
Pour les novices, c'est quoi le stop motion ? Et racontez-nous justement cet atelier d'un stop motion avec le doudou.
Le stop motion, c'est la technique d'animation image par image. Ça veut dire que donc, pour créer une image animée, on est traditionnellement autour de 24 images par seconde. Et ces images, mises bout à bout, forment une séquence animée. Donc, dans le cadre d'un atelier d'animation avec son doudou, nous, on installe en amont un petit décor qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, ça peut être par exemple un décor de chambre d'enfant. Et on va venir avec les enfants prendre des photos avec un doudou, par exemple, qui s'échappe sous la couverture. Donc, on déplace petit à petit, progressivement, le doudou de centimètre par centimètre pour le faire s'animer. Une fois qu'on a mis les images bout à bout, les enfants peuvent voir en direct les photos s'animer progressivement et donc assister au réveil de leur doudou.
Et que font les enfants? Alors, ils animent leur doudou parce qu'ils pratiquent aussi.
Oui, le but, c'est vraiment de leur expliquer, mais de les laisser faire ensuite, une fois qu'ils ont toutes les cartes en main. Alors, on prend un petit temps pour leur montrer comment ça marche. On leur explique bien que pour que l'animation soit la plus fluide possible, il faut vraiment bouger tout doucement le personnage qu'on veut animer. Et à partir de là, on les laisse faire, on installe le décor, le doudou en l'occurrence, on prend une photo, on leur demande ensuite de déplacer le doudou, de ressortir du cadre à nouveau, on les fait reprendre la photo. Et en fait, ça marche très bien. Ça, c'est un atelier qu'on propose même à partir de 3 ans. C'est déjà possible de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors évidemment, avec les plus grands, ça marche très bien aussi. Ils peuvent, eux, comprendre davantage que les petits, qui sont parfois un petit peu plus impatients. Mais vraiment, voilà, l'idée du village des enfants, c'est de montrer que tout le monde peut faire.
Faire comprendre aux plus jeunes ce que c'est le cinéma, c'est ça aussi votre rôle dans Rencontre audiovisuelle. C'est pour certains le premier lien avec le cinéma.
Ouais, nous, c'est vraiment l'ADN de notre association, les Rencontres audiovisuelles. C'était de faire découvrir le cinéma sous son format court et puis toutes les formes de cinéma, que ce soit le cinéma d'animation, comme la prise de vue réelle, la fiction, le documentaire, toutes les formes de cinéma, et ça nous tient vraiment à cœur. Et donc, dans le cadre du Village des Enfants, on a aussi des projections, en plus de ces ateliers, où donc on programme des programmes de plusieurs courts-métrages. Alors, ça dure environ une heure et demie, selon l'âge des participants, et on montre vraiment toute la diversité de ce qu'il peut faire, donc de l'animation 2D, de l'animation 3D, des films aussi en stop motion, donc comme je disais, donc c'est l'image par image en pâte à modeler par exemple, comme voilà, c'est Gromit, Chicken Run, etc. Donc on essaye de montrer vraiment tout ce qui peut se faire pour donner envie d'aller creuser le sujet et découvrir de nouvelles formes.
Alors, qui anime ces ateliers? C'est des encadrants qui sont professionnels du cinéma?
Alors, c'est notre équipe principalement. Nous, aux Rencontres audiovisuelles, on a tout un pôle qu'on appelle le pôle éducatif qui, tout au long de l'année, mène des ateliers audiovisuels. Donc, ils ont l'habitude d'encadrer ce type d'atelier. On peut faire appel également à d'autres structures dont c'est la spécialité. Donc, c'est des professionnels du cinéma qui ont l'habitude de travailler avec des enfants dans une perspective vraiment pédagogique. Et puis, c'est l'occasion aussi chaque année de mobiliser des bénévoles qui veulent s'impliquer eux aussi dans cet événement et puis donc qui viennent avec nous pour faire de la médiation sur ces ateliers.
Lors des ateliers des Rencontres audiovisuelles, les habitants peuvent se livrer à leur créativité et à leur imaginaire. En plus de sensibiliser à la création numérique, ces moments festifs et culturels permettent une éducation à l'image.
Tout à fait, c'est exactement le terme nous qu'on utilise pour définir les actions qu'on mène tout au long de l'année, éducation aux images et aux médias. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, non, et c'est important dès le plus jeune âge de toute façon de mener ce travail, bien sûr dans un usage tout à fait raisonné des écrans. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille aussi à l'association, la sensibilisation sur les écrans. Il n'y a pas d'âge, c'est vraiment, nous on propose là des ateliers vraiment pour tous les âges, ça commence à partir de 3 ans. Il y a d'autres ateliers qui sont un petit peu plus techniques, qui peuvent être à partir de 7-8 ans par exemple.
Est-ce que ce lieu, le Arenberg Creative Mine, le site minier d'Arenberg, se prête bien depuis plusieurs années maintenant? Vous faites aussi une escale à Wallers-Arenberg, ça s'y prête bien? Il y a une ambiance déjà de tournage, de cinéma?
Ouais, tout à fait. Ben le lieu, de toute façon, on le connaît principalement. Je pense pour la plupart des gens, pour avoir servi de décor à des films, des séries, et puis depuis qu'ils se sont réhabilités en pôle audiovisuel, ça a vraiment du sens pour nous, pour de nous installer là-bas. Et c'est tout au long de l'année, en fait. Là, on a le village des enfants dans le cadre du festival en octobre. Mais les rencontres audiovisuelles, c'est aussi le Video Mapping Festival. Donc, chaque année, on propose un parcours sur le site minier au mois de mai pour découvrir cette fois une nouvelle forme audiovisuelle qui est le Video Mapping. On s'éloigne un petit peu du court-métrage, mais finalement, il y a un pont qui peut se faire assez facilement entre ces deux formes, puisque ça reste des formes audiovisuelles courtes avec lesquelles on peut raconter des histoires. Donc voilà, donc là, il y aura un prochain rendez-vous fin mai sur le site minier. Les dates, c'est le vendredi 30 et samedi 31 mai. Ce sera de 22h15 à 2h du matin. Donc une très belle occasion de, en plus, redécouvrir le site en nocturne, là où on peut habituellement pas le faire.
J'ai déjà assisté à une édition du mapping vidéo et c'est juste fantastique. On redécouvre le site minier et comment les artistes, avec l'image, s'emparent du site minier. Et finalement, le site minier qui ne ressemble plus à un site minier, mais qui est vraiment une toile, où c'est vraiment une œuvre d'art qui est en mouvement sur ces lieux emblématiques. Il faut vraiment le voir et découvrir et le faire partager. Derrière ce vidéo mapping, il y a encore des ateliers avec des habitants.
Alors oui, sur certaines dates du festival, parce que c'est un festival qui est régional, on a une vingtaine de dates entre avril et octobre, on propose des ateliers vidéo mapping avec les habitants des territoires. C'est pas le cas cette année pour l'événement d'Arenberg Creative Mine. En revanche, on a depuis cette année une formation, un cursus métier du vidéomapping qu'on a installé directement là-bas à Arenberg Creative Mine. Et c'est le cursus technique vidéomapping qui est installé là-bas. Donc c'est une formation, un accompagnement à l'emploi qui est accessible aux personnes de 18 à 29 ans qui résident en région Hauts-de-France. Et voilà, et c'est une formation de 6 à 7 mois où on propose vraiment une formation à la fois théorique, mais surtout pratique, et un accompagnement à l'emploi avec une immersion sur le terrain dans le cadre du Video Mapping Festival, justement, où donc les apprenants inscrits en formation participent au Video Mapping Festival du côté technique, comment on projette le Video Mapping sur les bâtiments.
Eh bien, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site internet et le Facebook des rencontres audiovisuelles pour avoir les informations. Quel public impacté? Est-ce que c'est les habitants de Wallers? Est-ce que c'est les habitants du Valenciennois? Est-ce que vous avez déjà sondé?
Oui, l'objectif de nos actions, c'est d'aller aussi vers les habitants des territoires. Donc, en premier lieu, c'est bien sûr les habitants de Wallers. En tout cas, on souhaite qu'ils s'approprient ces événements qui viennent, que ce soit le Village des Enfants, le Video Mapping Festival, et plus largement, effectivement, le Valenciennois. Et puis, on a aussi du public qui peut venir de plus loin, notamment sur le Video Mapping Festival, où, comme vous le disiez, c'est vraiment une super occasion de découvrir ce site qui fait partie de notre patrimoine à toutes et tous en région. Donc on a du public qui vient aussi d'un peu plus loin, bien sûr.
On parlait d'ateliers au cours de cette interview et de savoir, est-ce que il y a différents ateliers pour différents publics? Donc ça veut dire que si jamais on est enfant et qu'on a envie de continuer à faire des ateliers cinéma, on peut le faire en étant ado, en étant adulte. Il y a une évolution aussi dans l'âge.
Oui, c'est le but. Hein. Nous, c'est vraiment de pouvoir s'adresser à tous les publics. Et donc, c'est ce qu'on propose au Village des Enfants. Il y en a pour tous les âges. Les parents peuvent également participer. Et puis, plus largement, nous, nos activités aux rencontres audiovisuelles touche toutes les catégories d'âge, tous les publics.
Rendez-vous les 30 et 31 mai au site Millet d'Arembert pour le Vidéo Mapping Festival. Plus d'informations sur rencontre-audiovisuel.org. Carmen Bourré, chargée de communication en visio. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Bonjour et bienvenue sur Radio Campus. Vous pouvez nous écouter sur le 106,6, le DAB+, et sur campuslille.com.
Oh, qu'est-ce que t'as à me regarder ?
Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté où les réputations se font.
Pas bon ralentir par les temps qui courent. J'ai renoncé à retenir les aiguilles de quelques tours. J'oublie les journées imbéciles aux rencontres chronométrées. Comme un idiot dans la ville, j'ai vu ma montre s'arrêter. Quelle heure est-il quand elle accroche son sourire à mes yeux? Quelle heure est-il quand elle approche, ne fait qu'un de nous deux? J'ai perdu la notion du temps.
Thank you.
des copains. On n'y trouve pas forcément du bien. Au 92 de la rue Machin. Il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut. Juste un petit mot, ne pas faire chier les vieux. Un peu comme chez moi et bien sûr comme chez eux. Beaucoup de respect, de jours heureux. Mais on sait qu'on a une vie rêvée. Oui, on sait qu'on est privilégié. J'avais une deuxième famille. Des parents, des frères, plus que des amis. Ou même pour me voir, dire quelques copains. Des copains qui ne sont pas forcément les miens. Si je me sens si bien au numéro de cette rue, c'est pas par profit ni envie non plus. Parce que je me sens si bien que chez moi. Qui est au 26, la rue, je sais plus quoi. Mais on sait.